L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. Après avoir évoqué la semaine passée la personnalité plus que controversée d'Aung San Suu Kyi et la situation catastrophique des Rohingyas, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet plus léger. Notre sujet du jour fête ces jours-ci son anniversaire, et pour être plus précis, son 90e anniversaire. Ce personnage, tout le monde le connaît, l'a vu ou l'a lu. Il a bercé notre imaginaire, a pu faire naître des vocations de journaliste ou d'explorateur, et même avoir une influence capillaire. Nombreux sont les petits garçons qui, à un moment donné de leur vie, ont porté la houppette. Il a fait le tour du monde, marché sur la lune, assisté au coup d'état ayant eu lieu au San Theodoros et échappé aux redoutables effets du poison qui rend fou, le Rajaja. Vous l'aurez deviné sans peine, nous allons aujourd'hui parler de Tintin et de ses aventures en compagnie de Milou et du capitaine Haddock. Joyeux anniversaire Tintin, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Et tout d'abord, quelles sont les origines de Tintin? Le 4 janvier 1929, les premières planches des aventures de Tintin apparaissent dans le Petit XXe, qui était le supplément jeunesse du journal belge Le XXe siècle. Ces premières planches allaient lancer les aventures de Tintin dans un album qui a longtemps fait polémique, Tintin au pays des soviets. Cet album a d'ailleurs été récemment colorisé. Mais je dois avouer qu'en tant que Tintamaniaque invétéré, je préfère la version en noir et blanc. Ce premier album est particulièrement virulent contre les bolcheviks, les scènes décrites pouvant même par moments présenter un caractère outrancier. Il convient de se souvenir que le XXe siècle était un journal catholique qui était viscéralement anticommuniste. Cette empreinte idéologique se retrouve dans les premiers albums de Tintin, où la vision du monde que l'on retrouve sous la plume d'Hergé est jugée manichéenne et simpliste. Je reviendrai sur ce sujet un petit peu plus tard au cours de cette chronique. Avant de créer Tintin, Hergé avait d'abord dessiné un boy scout, Totor. La revue dans laquelle ses dessins étaient publiés s'appelait d'ailleurs le Boy Scout. À la fin des années 30, Hergé illustrera des calendriers scouts décrivant le quotidien de jeunes membres de la Fédération du scoutisme catholique belge. Il faut souligner le rôle d'un homme qui a été proche d'Hergé au début de sa carrière, l'abbé Norbert Wallet. Né en 1882, Norbert Wallet est ordonné prêtre en 1906. Dirigeant le quotidien catholique, le XXe siècle, de 1924 à 1933, il utilise ce journal pour propager des idées nationalistes et ultra-conservatrices. À cette époque, il ne cache pas sa sympathie pour le régime fasciste italien. Il est anti-bolchévique, anti-franc-maçon et se montre particulièrement virulent envers les personnes de confession juive. C'est lui qui nommera Hergé au poste de rédacteur en chef du Petit XXe. L'idéologie nationaliste et ultra-conservatrice de Norbert Wallet imprègne les premiers albums de Tintin. Tintin au pays des soviets, Tintin au Congo, Tintin en Amérique, ou encore le Lotus bleu. Au fil des années, Hergé s'affranchira de la tutelle idéologique de l'abbé Wallet, même s'il continuera d'entretenir avec lui des liens d'amitié, jusqu'à la mort de ce dernier en 1952. Tintin reste l'œuvre majeure d'Hergé, qui est également l'auteur des aventures de Jo, Zette et Joko, ainsi que des exploits de Kuik et Flup. Tintin, un journaliste globetrotteur. La lecture des albums de Tintin est un voyage à part entière, permettant de parcourir les quatre coins du globe. Une grande course à la découverte de nouvelles contrées et de nouvelles cultures. Je reviendrai plus tard sur l'album Tintin au Congo et sur la polémique qu'il a pu engendrer. L'album Tintin en Amérique décrit l'Amérique des années 30, une Amérique rêvée et idéalisée, à une époque où des centaines de milliers d'Européens débarquent dans ce pays à la recherche d'un Eldorado et de meilleures conditions de vie. Il décrit de façon précise les moyens de transport de l'époque. Les taxis aux bandes jaunes et noires, de nombreux modèles de voitures, des motos et des sidecars. Cet album est également l'occasion de découvrir la face obscure de l'Amérique des années 30. contrebande d'alcool, mainmise des syndicats du crime, persécution des populations noires. En transposant la réalité de l'époque, on aurait pu imaginer Tintin enquêter sur les réseaux et les agissements d'Al Capone. Dans cet album, Hergé fait preuve d'une étonnante once de militantisme en évoquant les expulsions des Peaux-Rouges de leurs terres par les colons blancs pour l'installation d'une unité de forage pétrolier. Partons maintenant pour le continent asiatique et la Chine des années 30. Le Lotus Bleu est un album qui a fait l'objet d'un minutieux travail de recherche et qui introduit un personnage important dans la vie d'Hergé, Chang. Ce personnage a réellement existé. Zhang Zhongren est étudiant à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles lorsqu'il rencontre Hergé en 1934. Il échangera longuement avec Hergé et lui donnera de nombreux conseils afin qu'il ne retranscrive pas une vision caricaturale de la Chine. À la page 43 de l'album, on retrouve un florilège des clichés européens de l'époque. Tous les Chinois sont des hommes fourbes et cruels, qui portent une natte et qui passent leur temps à inventer des supplices et à manger des œufs pourris et des nids d'hirondelles. Au sujet des Européens, ils sont convaincus que toutes les rivières de Chine sont pleines de petits bébés chinois que l'on jette à l'eau dès leur naissance. Le Lotus Bleu s'inspire aussi de la toile de fond historique. Page 21. L'incident de Mukden, le 18 septembre 1931, est évoqué. Il s'agit d'un attentat à l'encontre de la société japonaise des chemins de fer de Mandchourie du Sud. Une section de voie ferrée a été détruite à cette occasion. Cet attentat a été préparé par les Japonais qui redoutaient de voir la Chine s'unifier. Les Chinois sont par la suite accusés d'avoir perpétré cet attentat. Cet attentat sert à justifier l'invasion du sud de la Mandchourie par les troupes japonaises. Dans cet album, Hergé exprime son soutien au peuple chinois face aux velléités expansionnistes du Japon. Parlons maintenant de l'album Tintin au pays de l'or noir, dont la toile de fond historique s'appuie sur les tensions au Proche et au Moyen-Orient, ainsi que la lutte pour le contrôle des ressources pétrolières. Il convient de rappeler que la prépublication de cet album s'arrête en mai 1940, dans les premiers temps de la Seconde Guerre mondiale. Cet album sera finalement publié en 1950. Tintin au pays de l'or noir décrit une situation internationale tendue où les pipelines sont sabotés, ce qui entraîne de graves conséquences sur les forces armées. Il est intéressant de noter que le contexte politique international a eu des répercussions sur la publication de cet album. Dans la première édition, l'album commence en Palestine qui se trouvait alors sous mandat britannique. Différents groupes juifs commettent des attentats pour défendre la création d'un État d'Israël. Au début des années 70, l'éditeur londonien demande à Hergé de changer de décor. La Palestine devient alors le Kemed, État arabe qui n'existe pas réellement, et qui est dirigé par le papa du célèbre Abdallah. Évoquons maintenant les différentes polémiques liées aux aventures de Tintin. Nombreuses sont les polémiques qui entourent les albums d'Hergé. On dit que Hergé était raciste, colonialiste, sexiste. Je ne vais pas revenir en détail sur ces accusations, mais vous donner des éléments d'éclairage. Hergé était-il sexiste? Les femmes occupent une place mineure dans l'œuvre d'Hergé. Les personnages de la Castafiore ou de sa femme de chambre ne sont que des caricatures. Hergé s'inscrit dans une époque où la société était dominée par les hommes et où la question de l'égalité homme-femme n'était pas encore devenue un débat sociétal. Les relations complexes que Hergé entretenait avec sa mère semblent également se ressentir dans ses albums. Hergé était-il raciste? La publication de Tintin au Congo, le 5 juin 1930, traduit toutes les ambiguïtés, voire les contradictions des puissances coloniales de l'époque. Tintin au Congo peut apparaître comme une œuvre de propagande, mais il convient de la réinscrire dans le contexte de son époque. Le Scramble for Africa, que se livrent la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Allemagne et la Belgique, livrent le continent africain à l'appétit des puissances à la recherche de matières premières et de territoires pour accroître leur influence. Le Congo fournira ainsi à la Belgique du caoutchouc, de l'ivoire, des diamants, du cuivre et du cobalt. Pour l'Église catholique, il s'agira d'une terre d'évangélisation où les missionnaires viendront lutter contre les pratiques occultes telles que la sorcellerie. Cet esprit se retrouve dans l'album et nourrira les polémiques. Polémiques qui ont pu être accentuées par le fait de voir Tintin maltraiter ou tuer des animaux. Au sujet de Tintin au Congo, Hergé s'est exprimé en ces termes. J'ai fait cette histoire dans l'optique de l'époque, c'est-à-dire dans un esprit typiquement paternaliste, qui était, je l'affirme, celui de la Belgique tout entière. Tintin fête ce mois-ci ses 90 ans. L'engouement pour ses aventures est toujours aussi fort. J'ai beau avoir lu un nombre incalculable de fois ses albums, je prends toujours autant de plaisir à les relire. Ma passion pour les voyages provient en partie de la lecture des aventures de Tintin, l'autre grande source d'inspiration étant un grand-père marin. De même, la lecture assidue de Tintin n'est pas étrangère au fait que j'ai fréquenté des rédactions de presse écrite. Au final, Tintin est synonyme d'aventure, de découverte et de façon parfois subliminale de description des enjeux et des rapports de force internationaux. Alors, Tintin était-il véritablement un reporter ? Chacun se fera une opinion à ce sujet. Néanmoins, Hergé avait eu l'occasion d'évoquer son admiration pour le métier de reporter. Tintin est donc né en 1929. Et 1929, c'est l'année des grands reporters qui sillonnent le monde avec leurs petites valises, qui s'embarquent sur le transsibérien, qui prennent le bateau. Ils vont dans les points chauds du globe. L'idéal pour moi, c'était le reporter. C'était le héros pour moi. J'admirais les véritables journalistes, et parmi eux, ceux qui étaient de véritables reporters. Ainsi s'achève cette chronique dédiée au 90e anniversaire de Tintin. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale. Once you are a sea fork and you sailed upon the sea.